France Musique. Musicopolis. Les Vêpres de la Vierge de Monteverdi, premier monument baroque. Dans le petit milieu des spécialistes de Monteverdi, on parle avec humour des Vêpres de la Vierge comme de l'œuvre qui fait courir le plus de risques à celui qui ose s'attaquer au sujet, que ce soit en préparant une édition, une exécution ou même un article. C'est qu'en fait, on ne sait absolument rien de sûr sur l'œuvre. Ni quand Monteverdi l'a composée, ni pourquoi, ni pour qui, ni si elle a été chantée, ni comment, ni par qui. Bref, ce qui est certain, c'est qu'on ne manque pas de questions. Une chose est sûre tout de même à propos des Vêpres de la Vierge de Monteverdi, c'est la date de publication, septembre 1610, chez un éditeur de Venise. Autre certitude, le début de l'œuvre reprend comme un hommage l'introduction de l'Orfeo, l'opéra donné 3 ans plus tôt à Mantoue, chez les Gonzagues. Ah si, il y a encore un fait certain dans l'histoire des Vêpres de Monteverdi, la dédicace au pape Paul V. Une dédicace au ton très courtisan, bien sûr, agrémentée de quelques jeux de mots sur le nom de Monteverdi. Pour que les chants sacrés, illustrés par votre éclat célèbre et quasiment divin, resplendissent, et pour que bénédiction suprême accordée par vous, le petit mont de mon génie verdisse chaque jour davantage et que soient closes les bouches injustes qui parlent contre votre Claude, j'apporte et j'offre, prosterné à vos pieds très saints, mes élucubrations de toutes sortes. Puisqu'on ne sait pas grand-chose de ces Vêpres de la Vierge de Monteverdi, tâchons au moins de retrouver un peu le contexte dans lequel l'œuvre a vu le jour. Partons donc de la date de 1610 où la partition est publiée. Monteverdi est alors maître de chapelle du duc Vincent de Gonzague. Il est arrivé à Mantoue il y a une 20aine d'années, en bas de la hiérarchie des musiciens, comme joueur de viol et chanteur. Il a monté les échelons peu à peu, pendant que sa réputation de compositeur grandissait avec la publication de plusieurs livres de madrigaux. Il a été nommé maître de chapelle. En 1607, dans le prolongement du grand bouillonnement musico-littéraire qui voit la naissance de l'opéra, Monteverdi donne l'ouvrage qui est considéré comme le premier chef-d'œuvre du genre, l'Orfeo. Mais ses relations avec son patron, le duc, sont difficiles. En fait, Monteverdi est totalement pressuré, submergé de travail. Et en 1608, il fait un genre de burn-out. Il se réfugie chez son père, médecin, à Crémone, où, dit-il, ni cautère, ni purgation, ni saignée et autres puissants remèdes n'ont pu venir à bout de sa fatigue. Une dépression due à des mois de surmenage et aggravée par la mort de son épouse Claudia. La situation de Monteverdi à Mantoue est pénible, non seulement parce qu'on lui demande d'être partout à la fois et de se charger de tous les divertissements musicaux de la cour, mais aussi parce qu'aucune véritable reconnaissance ne lui est accordée, ni en parole, ni sur le plan matériel. Pendant qu'il se repose chez son père, il menace de ne plus revenir à Mantoue. Mais il n'est pas en position de force. La situation de musicien est délicate, c'est le prince qui décide. Le duc de Gonzague s'est amadoué. Il a accordé une petite augmentation à Monteverdi. Le musicien rentre à Mantoue, il reprend le travail. Il demande à être chargé uniquement de la musique religieuse. Mais il y a déjà un maître de chapelle à l'église Sainte-Barbara, qui dépend du palais ducal. En attendant, Monteverdi a toujours beaucoup de travail pour le divertissement du duc. Les festivités du mariage du fils aîné Francesco avec Marguerite de Savoie ont eu lieu en 1608. En juillet 1609, une fille leur est née, Maria, et son baptême est célébré en mars 1610. Des occasions pour faire de la musique.
Oh,
En fait, après la création des deux opéras de Monteverdi pour le duc de Gonzague, Orfeo en 1607 et Arianna en 1608, il ne se passe plus grand-chose d'intéressant à la cour pour le compositeur. Il continue à composer néanmoins. Il fait publier quelques madrigaux et il voudrait bien quitter Mantoue. Mais pour aller où ? Les postes prestigieux en Italie sont plutôt rares. Pour trouver une situation à la mesure de son talent, il faut se tourner vers des villes où règnent soit de grandes familles, soit des gouvernements puissants. Ferrare, Florence, Milan ou encore Rome ou Venise. Pour se présenter à un poste, Monteverdi dispose à 47 ans d'un très beau catalogue. Il a beaucoup publié. Outre des pièces séparées dans des recueils, il a à son actif de nombreux volumes entièrement consacrés à ses œuvres et parus tout au long de sa carrière. 5 recueils de madrigaux, des canzonettes, des scherzi musicali. Dans le domaine religieux, néanmoins, il y a longtemps qu'il n'a rien publié. Il faut remonter à 1582 et 83 pour trouver des sacrés canzoncule et des madrigaux spirituels. Le 26 juillet 1610, Bassano Cassola, vice-maître de chapelle à Mantoue, écrit au fils du duc, le cardinal Ferdinand de Gonzague, je cite « Le Monteverdi fait éditer une missa da cappella à 6 voix, source de labeur et de grande fatigue, et en même temps il fait imprimer des psaumes des vêpres de la Madone avec des matières diverses et variées quant à l'invention et l'harmonie. Son intention étant de venir à Rome cet automne, pour proposer au Saint-Père la dédicace du recueil. Il est dommage que ce Cassola ne donne pas plus de détails sur les œuvres. On ne sait pas si les psaumes des Vêpres sont récents ou non. Pour ce qui est de la missa da cappella, en revanche, elle paraît assez nouvelle. Et Cassola explique que si c'est une source de fatigue, c'est parce que Monteverdi est obligé d'y mettre en valeur de toutes les façons les 8 figures qui sont dans le motet In illo tempore de Gombert. Autrement dit, Monteverdi base sa composition sur un texte plus ancien, avec toutes les ressources de l'écriture polyphonique. Cette messe In illo tempore de Monteverdi, on a l'impression de se retrouver à Rome du temps de Palestrina. Par rapport à ce qu'on entendait depuis le début de l'émission, des extraits des Vêpres, ici, le style est beaucoup plus ancien. On n'est plus du tout dans de la musique baroque, mais bien plutôt dans le style de la Renaissance. C'est donc en septembre 1610 que paraît à Venise le nouveau volume de Monteverdi. Je vous donne le titre exact, traduit du latin. Messe à 6 voix, à l'usage des églises, et vêpres de la très sainte Vierge à plusieurs voix, avec quelques concerts sacrés, destinés à la chapelle ou à la chambre des princes, œuvre récemment composée par Claudio Monteverdi et dédiée à sa sainteté Paul V, souverain pontife. À Venise, chez Ricciardo Amadino, 1610. Ce titre mérite qu'on s'y arrête quelques secondes pour souligner que l'ensemble, messe et vêpres, est dédié à la très sainte Vierge. Et autre remarque, tandis que la messe est à l'usage des églises, les concerts sacrés des vêpres sont destinés à la chapelle ou à la chambre des princes. Par conséquent, cette publication peut intéresser beaucoup de monde. Les églises pour un usage liturgique, les chapelles des princes pour les offices et même la chambre des princes pour des concerts spirituels en dehors du contexte religieux proprement dit. Monteverdi a destiné la messe à la Très Sainte Vierge aux églises, dans un style archaïque qui peut convenir à toutes sortes de chapelles. Mais avec ses vêpres, il s'adresse aux cours princières. Il peut donc concevoir sa musique pour des chanteurs professionnels et même virtuoses. Ce qu'il fait dans un style tout à fait moderne, en se souvenant de toutes les découvertes qu'il a réalisées en composant son Orfeo. Comme l'a annoncé le vice-maître de chapelle, Monteverdi se rend à Rome en septembre 1610. Il veut d'abord faire accepter au pape Paul V la dédicace de sa nouvelle publication. On se doute bien qu'en même temps, notre musicien serait heureux de trouver un poste à Rome, qui pourrait certainement lui apporter beaucoup sur tous les plans, musical et financier. Il voudrait aussi obtenir une bourse pour l'un de ses fils, qui se destine à la prêtrise et pourrait entrer au séminaire romain pour se former. De tous ses espoirs, un seul va se concrétiser. Le pape va accepter la dédicace. Ce qui n'est pas négligeable. Le pape légitime en quelque sorte le recueil et c'est une bonne opération de communication. Il y a aussi un autre effet intéressant à ce voyage, c'est que Monteverdi rencontre des musiciens. Rome en est pleine et même si l'église elle-même est plutôt conservatrice, il y a beaucoup d'émulation parmi les artistes. Néanmoins, notre compositeur doit rentrer à Mantoue sans qu'aucun poste se profile à l'horizon.
Lauda,
Avec tout ça, nous n'avons toujours pas idée du pourquoi ni du comment de la composition des vêpres de Monteverdi. Plusieurs hypothèses ont été avancées. D'abord, que l'œuvre n'a jamais été chantée à Mantoue avant la publication et qu'elle représente une sorte de book, un portfolio, une compilation de toutes les possibilités d'écriture que le compositeur maîtrise. Encore mieux qu'un CV ou une lettre de motivation. D'autres hypothèses laissent imaginer que Monteverdi a fait chanter tout ou une partie de ses nouvelles compositions. Plusieurs occasions sont avancées, le mariage de Francesco, le fils du duc de Gonzague en 1608, ou le baptême de sa fille en 1610. Ou, hypothèse encore plus séduisante, les vêpres auraient été données au fil des années le jour de la Sainte Barbara, le 4 décembre, dans la basilique du même nom du Palais Ducal. La plupart des questions à propos des vêpres de la Vierge restent sans réponse. La musique, elle, continue à clamer haut et fort toute la variété et la richesse du génie de Monteverdi, tandis que les interprètes ne cessent de revoir toutes les possibilités et de nous proposer des lectures toujours nouvelles et exaltantes. Sicut erat in principio, la fin du Magnificat, qui se trouve lui-même à la fin des Vêpres de la Vierge Bienheureuse de Claudio Monteverdi, le chœur de chambre de Namur, la Capella Mediterranea, dirigée par Leonardo Garcia Alarcón. Le programme, la réécoute et le podcast sont sur francemusique.fr, sur la page Musicopolis et sur l'appli Radio France. Pour nous écrire, rien de plus simple, vous cliquez sur l'onglet « Contact ». Notre grande petite équipe était composée aujourd'hui de Cédric Chatelus pour le mixage, Philippe Petit pour la réalisation et Élise Kravets pour les recherches et le site.
À réécouter sur francemusique.fr.